Kiosque Magazine.
Bonjour et bienvenue à Kiosque Magazine en cette belle journée d'automne. Vous êtes en compagnie de Dominique Meillet. Aujourd'hui, mercredi 1er octobre, je vais vous parler de la conciliation travail-famille. Ensuite, je vous donnerai quelques petits conseils pro en beauté. On nous expliquera comment méditer, c'est facile. Et on vous posera la question « Jetez-vous votre argent ?» Quelques conseils déco pour nos entrées. Et enfin, « Tatouer à tout âge » sera le dernier sujet du jour. Kiosque Magazine débute dans quelques instants. Restez avec nous. Conciliation travail-famille. Et si on faisait fausse route ? C'est un texte par Isabelle Bergeron dans le coup de pouce d'octobre 2014. Le secret bien gardé de la conciliation travail-famille, c'est qu'elle ne tient pas à une ou plusieurs solutions magiques. Qu'on se le dise une fois pour toutes, ce n'est pas en faisant les lunchs des enfants la veille qu'on arrivera à tout faire, ni en gardant en permanence notre mijoteuse sur le comptoir de la cuisine, ni en téléchargeant l'application d'organisation familiale à la mode. Et pourtant, on veut tellement y croire. À force de se convaincre qu'il est toujours possible d'en faire plus, mais que c'est de la faute à notre organisation, à notre insuffisance, au manque de bons trucs, si on n'y arrive pas, on s'emmure dans un leurre qui nous enferme comme dans une prison. Et si c'était plutôt le concept même de conciliation qui était à revoir et corriger ? Je crois que depuis une quinzaine d'années, la conciliation travail-famille a été facilitée au Québec grâce à des mesures comme les congés parentaux et les CPE, avance Guylaine Deschênes, psychologue industrielle et auteure de L'art de concilier le travail et la vie personnelle. Quant aux entreprises, plusieurs ont mis en place des mesures de conciliation de façon informelle, selon Francine Descaries, sociologue et membre fondatrice de l'Institut de recherche et d'études féministes de l'UQAM. Est-ce que c'était plus facile avant, quand les mères étaient confinées à la maison et n'avaient pas leur place sur le marché du travail ? Bien sûr que non. On a fait du chemin, rappelle la sociologue. De fait, personne ne peut le nier. Tout le travail que les féministes ont fait en amont rapporte aujourd'hui aux femmes et à la société entière. En revanche, la conciliation est devenue plus difficile à cause de la course à la performance et à la perfection qui est encore plus intense qu'avant, dit Madame Deschênes. On veut tout faire, tout réussir, tout ça en ayant l'air zen. Nos enfants sont bilingues, ont un demi-marathon derrière la cravate, on siège au comité de parents, on sait cuisiner le quinoa de 15 façons différentes, on vient d'accepter une promotion, on s'occupe régulièrement de notre mère sur le déclin. Et, bien entendu, on se garde un peu de temps pour notre couple parce que c'est essentiel. Et tout ça pourquoi ? Parce que ça nous rend heureuses. Ou bien parce que tout le monde le fait et qu'on a l'impression que c'est ce qu'on attend de nous. Cela dit, être parent exige un engagement qui requiert du temps. On n'y échappe pas, et les parents québécois n'échappent pas non plus aux effets pernicieux que semble avoir sur eux la conciliation des différents pans de leur vie. Dans un rapport publié en 2005, intitulé « La difficulté de concilier travail-famille », ses impacts sur la santé physique et mentale des familles québécoises, on rendait compte de l'incidence de problèmes tels le stress, l'hypertension, la dépression, la toxicomanie, etc. chez les parents. Nathalie Saint-Amour, co-auteure du rapport et professeure au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais, ne croit pas pour sa part que les entreprises aient fait un si grand bout de chemin pour faciliter la vie des parents. Il n'existe pas de loi à proprement parler qui favorise la conciliation travail-famille, contrairement à d'autres pays comme l'Australie, par exemple, où les parents ont le droit de demander un horaire de travail flexible, que les employeurs ne peuvent refuser que sous certaines conditions. La spécialiste croit d'ailleurs que davantage de mesures de conciliation réduiraient l'impact négatif sur la santé qu'entraîne souvent la difficulté de concilier nos vies. Et que les patrons se le tiennent pour dit, une étude belge publiée cette année rapporte que 85% des employeurs estimaient qu'offrir à leurs employés des mesures de conciliation efficaces augmentaient leur productivité. Mais notre réflexion doit être poussée plus loin. On doit aussi se questionner sur la place que prennent le travail et la consommation dans nos vies. Si on se définit essentiellement par notre travail, si on a absolument besoin du dernier gadget de l'heure ou que les vêtements de nos enfants soient griffés, on risque de s'imposer une pression supplémentaire. Par ailleurs, on vit dans un système capitaliste où les femmes sont encouragées à travailler, rappelle Francine Descaries. Dans un tel système, leur autonomie passe inévitablement par l'indépendance financière. De fait, la majorité des femmes ne pourraient probablement pas concevoir de ne pas occuper une place dans le marché de l'emploi. Et celles qui souhaiteraient se retirer de ce marché pendant 5 ans, 10 ans. Celles pour qui concilier travail et famille est une équation qu'elles ne veulent tout simplement plus faire. C'est lorsqu'il y a une incohérence entre nos valeurs et notre vie que ça endommage notre santé, physique et mentale, soutient Guylaine Deschênes. Si on a besoin de pratiquer notre sport préféré 3 soirs par semaine, on devrait s'arranger pour pouvoir le faire, quitte à laisser tomber autre chose. Et si on sent que notre place est à la maison, auprès des enfants, et à s'impliquer autrement que par le travail, on devrait aussi s'organiser pour pouvoir le faire, quitte à laisser certaines choses de côté, à revoir notre mode de vie et à faire front commun avec notre conjoint. Car on a le droit de choisir de rester à la maison, on a le droit de refuser une promotion. On a le droit de travailler 60 heures parce qu'on aime ça. Notre conjoint a le droit de passer encore plus de temps que nous à s'occuper des enfants. On a le droit de détester faire la cuisine et d'acheter des plats préparés, parfois. On a le droit de ne pas inscrire nos enfants au cours d'éveil musical. On a le droit de fermer les yeux sur les boules de poussière qui virevoltent dans la maison. Et on a le droit de partir en voyage seul avec notre chum ou pour le travail. On a le droit de passer des heures à lire, de refuser des heures supplémentaires, de prendre le temps de dîner ou de sauter un repas pour piocher sur un dossier. Idéalement, n'importe quel choix qu'on fait devrait être valorisé socialement, soutient Guylaine Deschênes. Mais comme c'est chaque individu qui compose la société, on doit commencer par se valoriser soi-même. Petit conseil, grand changement. Les petits défauts grâce au maquillage peuvent être corrigés ou minimisés. Plein feu sur ces gestes qui nous permettent d'être nous en mieux. C'est par Angélique Martel dans le coup de pouce d'octobre 2014. Alors si on a les paupières tombantes, premièrement, posez le cache-cerne en dessinant un triangle inversé sous l'œil pour éclairer les zones d'ombre et niveler les bourre-fissures. Deuxièmement, mettre une touche d'anticerne sous les sourcils pour définir l'arcade et donner l'impression qu'elle remonte légèrement. Troisièmement, redessiner le sourcil avec un fard ou un traceur en lui donnant une forme plus horizontale qu'arquée afin de lifter l'œil. Quatrièmement, farder de beige clair tout l'œil. Ombrer de prune le coin externe de la paupière mobile en étirant le fard vers le haut pour ouvrir le regard. Cinquièmement, creuser la paupière avec un fard marron foncé en traçant une banane au-dessus du pli de chaque œil. Et enfin, mettre un point de lumière nacrée au centre de la paupière afin de bien contraster l'ensemble. Les astuces de pro. On structure le visage en assombrissant son ovale de poudre soleil pour déjouer virtuellement la gravité et lifter le visage. On choisit des ombres à paupières mates qui permettent de creuser avec plus d'intensité et on les applique de l'extérieur vers l'intérieur de la paupière, évitant ainsi de tirer l'œil vers le bas. Cernes marquées. Alors comment remédier à ça ? Appliquez le fond de teint en le taponnant aussi sur les cernes pour voiler une majorité d'ombrage. Deuxièmement, parfaire la correction avec un anti-cerne liquide en le concentrant au coin interne de l'œil afin de bien défatiguer le regard. Ensuite, farder la paupière supérieure, jamais l'inférieure, de teinte froide et opalescente pour donner un halo lumineux aux yeux. Ne pas matifier la peau avec de la poudre au risque de marquer davantage les traits tirés et les ombres sous les yeux. Cinquièmement, utiliser un gloss de teinte neutre, légèrement irisé, qui met en valeur l'aspect charnu de la bouche. Les astuces de pro. Pour dissimuler des cernes bruns, on choisit un camouflant rosé. Si nos cernes sont plutôt bleutées, mieux vaut se tourner vers une teinte orangée. Et on évite à tout prix les ombres à paupières de même couleur que nos cernes. Une fois l'anticerne posé, on tamponne avec la pulpe du doigt pour le fixer et aplanir toute épaisseur disgracieuse. Utilisez un anticerne liquide, moins sujet au craquement que les formules en bâton. Peau grasse et rougeoyante. Premièrement, appliquez une bébé crème minérale et non comédogène sur tout le visage, de la zone médiane vers les contours à l'aide d'un pinceau. Deuxièmement, tamponnez le fond de teint sur les rougeurs, taches et comédons bien ancrés à l'aide d'une éponge pour une couvrance plus opaque. Troisièmement, définir le contour de l'œil au crayon et discipliner les sourcils pour mettre les yeux en valeur. Ensuite, brossez les cils de mascara noir pour créer un contraste plus marqué avec les yeux pâles et donner plus d'impact au maquillage. Enfin, chassez la fatigue et les yeux rouges en illuminant de crayon blanc la paroi intérieure, inférieure de chaque œil. Les astuces de pro, on choisit une base de teint liquide plutôt qu'un compact poudreux qui tend à s'agglutiner dans les pores dilatés et à strier l'épiderme huileux. Surtout, on évite tout accent rosé, sur les pommettes autant que sur les lèvres et les yeux, au risque de faire ressortir les rougeurs qu'on cherche à corriger. Petits yeux. Mettre en évidence les pommettes saillantes en posant un blush rosé sur le haut de la joue avec des mouvements circulaires. Épiler les poils superflus sous les sourcils et bien dessiner chaque arcade pour agrandir la surface de la paupière. Pâlir de fard mat toute la surface de la paupière afin de l'unifier, l'illuminer et l'agrandir. Ouvrir l'œil en nappant de mascara les cils du haut et du bas. Définir le regard en soulignant d'ombre grise le dessous de l'œil seulement afin de ne pas amoindrir la superficie déjà restreinte de la paupière mobile. Et enfin, faire contrepoids au regard en mettant la bouche en relief à l'aide d'un rouge à lèvres d'une couleur soutenue. Les astuces de pro. En plus de corriger nos petits défauts, on apprend à tabler sur nos atouts pour qu'ils attirent l'attention au premier regard. Comme on balaie aussi la frange de cils inférieure, on opte ici pour un mascara hydrofuge pour éviter qu'il ne fuit pendant la journée. Et enfin, nez rond et légèrement épaté. Tabler sur le clair-obscur en jouant avec deux crayons camouflants. Faire un trait pâle sur l'arête du nez pour l'allonger, puis crayonner de chaque côté du nez pour l'amincir. Ensuite, poser le fond de teint en deuxième en tapotant là où c'est nécessaire afin de ne pas dissoudre la correction nasale avec une éponge pour unifier le grain de peau. Définir le contour de l'œil et l'arc des sourcils pour attirer le regard sur les iris. Creuser la joue en diagonale avec une poudre mate foncée de type poudre soleil pour amincir le visage en accord avec le nez. Et enfin, poser un gloss rose nacré sur les lèvres pour illuminer le visage. Les astuces de pro, on hydrate bien sa peau avant d'utiliser le crayon camouflant. Cela permet d'étaler la matière plus aisément et de la fondre avec plus de naturel. On mouille notre éponge avec un peu d'eau pour qu'elle glisse bien, de façon à estomper le fond de teint sans zébrer la peau.
Belle bénévole, bénie du ciel, moi je raffole, toi ma bénévole. Tu m'as offert ton amour sans rien me demander en retour, et tu tiens parole. Oh 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 oh. Tu as pris pitié de ma cause quand il n'y avait personne pour m'aimer. Tu te dédies à moi presque sans pause. J'aurais jamais pu rêver que quelqu'un m'aime volontiers. Belle bénévole, beauté divine, il y a une auréole sur ta tête, ma bénévole. Ça me demandait une scène, comme une bonne samaritaine, tu me cajoles. Oh 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 oh. Tu sais que ton temps est précieux, mais tu te dévoues sans compter les heures. Je vois le soleil au fond de tes yeux, l'amour brille de bonheur quand il est donné de bon cœur. Come on baby. Viens qu'on se colle, je n'aurai aucun bémol. Tu m'aimes généreusement, même si j'ai pas beaucoup d'argent. Tu dois être folle, comme je suis fou de toi. Tu as pris pitié de ma cause quand j'étais en manque d'affection.
Bien, c'était Damien Robitaille avec Belle bénévole. Méditer, c'est facile. On voudrait bien méditer, mais on ne pense qu'au lavage, au boulot, aux chiens qu'il faut promener. Des expertes nous donnent leurs trucs pour y parvenir. C'est un texte par Julie Leduc dans le coup de pouce d'octobre 2014. La méditation permet de réduire le stress et l'anxiété et aide à mieux gérer nos émotions. Elle améliore aussi notre concentration et notre humeur, en plus d'abaisser notre pression artérielle, de relâcher les tensions musculaires et de réduire les migraines et la perception de la douleur. Bref, c'est bon pour nous. Plus facile à dire qu'à faire? Voici comment s'y prendre. Premièrement, on s'installe. La position de base est importante, signale Nicole Bordelot, professeure de yoga et de méditation chez Yoga Monde. On s'assoit confortablement sur une chaise, le dos droit, pas appuyé au dossier. On pose nos mains sur un coussin placé sur nos cuisses et nos pieds à plat sur le sol. On ferme les yeux et on choisit un ancrage, c'est-à-dire un élément neutre qui nous permet d'entrer en méditation. Cela peut être une voix qui nous guide, un mantra, mais le plus simple, c'est d'utiliser notre respiration. On se concentre sur les sensations qu'elle provoque dans notre corps. On reste attentive aux endroits où elle passe. On peut aussi ajouter une phrase comme « j'inspire et je sais que j'inspire » ou « j'expire et je sens que j'expire », dit Madame Bordelot. Ou encore « j'inspire le calme, j'expire le stress ». Deuxièmement, on ne juge pas nos pensées. Notre esprit va vagabonder, c'est certain et c'est normal, indique Laurence de Modeher, assistante de recherche pour le groupe de recherche et d'intervention sur la présence attentive de l'UQAM. Penser à nos responsabilités, c'est normal. Cela se produit même chez les personnes qui pratiquent depuis 30 ans. Le but n'est pas d'extraire nos pensées de notre esprit, mais dès qu'on note qu'elles vont dans tous les sens, on ramène doucement notre attention sur notre respiration. C'est un entraînement. On est programmé pour envisager le futur et ressasser le passé, poursuit Nicole Bordelot. Il ne faut pas se juger durement quand cela se produit. Si on s'aperçoit qu'on est en train de faire notre liste d'épicerie, on revient simplement à notre ancrage. C'est ainsi qu'on solidifie notre pratique. Même après 25 ans, j'ai des méditations calmes et d'autres où mon esprit s'envole. Troisièmement, on prend conscience des bruits. Un camion qui klaxonne dans la rue, des enfants qui crient, la tondeuse du voisin. Tout propice à nous déconcentrer. C'est pourquoi Laurence de Mandeher conseille de s'installer dans un endroit tranquille. Mais comme on n'aura jamais le silence parfait, on utilise ces bruits pour méditer. La vie ne s'arrêtera pas parce qu'on médite, dit Nicole Bordelot. On prend conscience du bruit et on revient à notre respiration. Avec le temps et la pratique, on réagira de moins en moins au son, jusqu'à devenir une spectatrice silencieuse de l'agitation extérieure. Quatrièmement, on s'assure d'être à l'aise. Fourmillements dans les jambes, crampes musculaires peuvent gêner notre méditation. Ces sensations normales surviennent parce qu'on n'est pas habitué de rester immobile, note Madame Mandeher. On peut bouger pour se désengourdir. Ces sensations peuvent aussi être le signe de notre posture n'est pas bonne. On s'ajuste, on essaie de se détendre et on respire, ajoute Nicole Bordelot. On prend conscience de nos sensations sans pour autant réagir à chacune d'elles. Si on se gratte chaque fois qu'on se pique, on n'en finira pas. Par contre, si on a une grosse douleur, on se lève, on bouge, puis on se réinstalle. La méditation, il faut s'en faire cadeau et non se l'infliger comme une punition. Cinquièmement, on médite. On est dans le moment présent. On en profite le temps que ça dure. Chaque fois que notre attention est tournée vers le présent, on peut dire qu'on médite. Nos sens sont ouverts, on entend les bruits, le silence. On sent les odeurs, on voit les couleurs, les formes, etc. Et notre esprit s'apaise. Et ça se sent, dit Nicole Bordelot. Tout est silencieux et en paix en nous et autour de nous, même si tout continue à bouger. On le ressent, mais c'est personnel à chacun et ça peut changer d'une méditation à l'autre. Et enfin, sixièmement, on met fin à la séance. Si on fait une méditation guidée, une voix nous indiquera la fin de notre séance. Autrement, on prévoit une petite minuterie pour nous avertir. On en trouve sur le web avec des sons de gong, par exemple. On ouvre tranquillement les yeux et on s'étire un peu. J'aime bien l'idée de prendre une minute à la fin d'une méditation, le dos appuyé sur la chaise, pour savourer le moment et apprécier les bienfaits. Normalement, on devrait se sentir plus calme et énergisé pour poursuivre notre journée. Bien, c'était Ravi Shankar avec sa musique mantra. La magie du kaki, C'est dans le coup de pouce d'octobre 2014 et c'est un petit papier sur la mode. Lourd par-dessus, pantalon avec poche à rabat, chaussures de combat, le kaki quitte rarement les codes de l'armée. Mais cet automne, il ne se camoufle plus sous des formes trop carrées. Raffiné, il est bien parti pour remporter la guerre des tendances. On fait comment ? Alors premièrement, si on fuit tout ce qui fait trop militaire, impossible de se tromper. Pour éviter cette couleur, on choisit une robe cache-cœur, toujours flatteuse pour la silhouette. Une belle blouse à volant, une veste aux lignes classiques ou une jupe crayon chic, détaille la styliste Isabelle Etier. Un seul mot d'ordre, l'élégance. Deuxièmement, ce vert strict s'adoucit dans des matières plus nobles que les toiles et cotons auxquels on l'a souvent cantonné. Tricot fin, cachemire et soie lui donnent un nouveau souffle. Troisièmement, au pied, on évite la botte cavalière large, vue et revue dans la panoplie militaire. Selon notre experte, une botte ou un bottillon en cuir fin noir ou brun, bien ajusté sur le mollet et idéalement à talons, soulignera au mieux la féminité voulue de l'allure. Quatrièmement, avec du kaki, l'or est magnifique complètement, ajoute la pro. Chic et moins dur que l'argent, il vient réchauffer l'ensemble encore davantage.